Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Mama Édition.
Chez Mama Édition, nous publions depuis plus de 20 ans des livres audacieux. Parcours de vie aux frontières de l'extraordinaire, médecine alternative, témoignages, spiritualité, des ouvrages de référence pour aujourd'hui et pour demain.
On est chaman, on ne le devient pas. Musicienne, plasticienne, Brigitte Pierzak comprend à 49 ans qu'elle est chamane. Elle part, n'écoutant que son cœur, aux confins de la Mongolie pour rencontrer Enketuya, célèbre chamane, et apprendre auprès d'elle. Le chaman est un guérisseur de l'âme qui voyage entre le ciel et la terre, relié à la puissance de l'amour. Brigitte le dit ainsi : « Je voyage dans tous les mondes, ne m'interdisant aucune destination et ne refusant aucune rencontre. » Calme, enracinement et accueil font partie de l'attribut d'un chaman, plus encore que le tambour et ou la transe. Son livre, Ciel blanc, ciel noir, raconte les rites, les esprits, les valeurs du chamanisme mongol de façon poétique et présenté sous forme de courts chapitres. Sont parus également un livre de canalisation, Le journal de l'invisible, messages reçus des esprits et guides qui l'accompagnent, ainsi qu'un oracle de la chamane, puissant outil qui peut devenir un compagnon du quotidien. J'aime particulièrement les cartes esprits, ongod, comme la salamandre, le loup ou le cavalier mongol, qu'on peut garder avec nous le temps que leur sagesse se déploie ou en guise de protection. Partons écouter avec Brigitte ce monde invisible si proche de nous. Ciel blanc, ciel noir, c'est un livre hommage au chamanisme. Moi, je l'ai pris comme un dictionnaire amoureux, un abécédaire du chamanisme. Il est très poétique dans sa façon de voir les choses, d'écrire ce que tu as vécu, Brigitte. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, d'où tu viens, comment ça se fait que tu es devenue maintenant une chamane ?
Déjà, je ne suis pas devenue une chamane, je suis née chamane et je peux considérer que le rapport avec l'invisible date depuis toujours. Donc avant d'arriver au chamanisme, j'ai eu un parcours, je dirais, que je nommerais de spirituel, où j'ai été entre autres dans les groupes Gurdjieff, où j'ai fait de la méditation zen, où j'ai rencontré une personne remarquable comme Charlotte Calmis qui m'a mis sur le chemin de la spiritualité. Et c'est qu'à l'âge de 49 ans, que j'ai senti en moi la force de l'appel et le désir impérieux de rejoindre Enketuya en Mongolie. Et à partir de là, sans savoir pourquoi, je savais que mon destin allait changer.
Tu ressentais vraiment au fond de toi tout ça, mais comment ça t'est venu ce parcours spirituel ?
Je pense que c'est quelque chose d'inné. Ça ne vient pas, c'est quelque chose qui t'habite et qui fait que dans ton parcours de vie, les expériences spirituelles viennent à toi. En tous les cas, cette dimension, tu l'appréhendes parce que tu l'as peut-être déjà vécu dans des vies passées où le spirituel avait déjà une importance pour toi. Dans mon cas, j'ai eu la résurgence d'une vie intérieure qui m'a fait prendre conscience que dans une autre vie, j'avais un moine bouddhiste. Et donc, je pense qu'en partie, parce qu'il y a sans doute pas dans cette vie, mais cette antériorité a été quelque chose d'assez fondateur aussi pour cette incarnation, disons dans le bagage déjà acquis au niveau de la spiritualité, je dirais.
Tu as aussi ton grand-père, tu en parles dans ton livre.
Alors mon grand-père n'a pas accepté au fond cette dimension spirituelle, c'est pour ça, selon moi, qu'il a fait des crises d'épilepsie. Et à partir de là, sans doute en acceptant cette communication avec l'invisible et ce chemin spirituel, j'ai sans doute nettoyé au niveau de ma lignée cet obstacle qui faisait que mon grand-père, ne l'ayant pas assumé, donc il était donc épileptique et on peut dire peut-être que ça a sauté une génération, voire deux.
Alors j'ai une grande question, qu'est-ce que le chamanisme ? Comment tu pourrais le définir ? Bon, tu l'as défini quand même, enfin, on le sent défini dans le livre, ciel blanc, ciel noir. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ?
Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un chaman ? Donc, pour moi, un chaman, c'est avant tout un intermédiaire entre le visible et l'invisible, qui a cette possibilité donc de dialoguer avec les présences de l'invisible, que ce soit donc des esprits animaux, les défunts, des âmes pas encore nées, aussi des esprits, on va dire des esprits de lumière, des esprits angéliques. Et à partir de là, donc, étant à l'interface entre le visible et l'invisible, à la différence du médium qui, par exemple, va voir et recevoir des informations, lui, il a cette possibilité d'agir et de réparer, en fait, les accidents de la vie et les désordres que tout un chacun peut avoir au niveau des expériences qui lui sont données. Et à partir de là, quand quelqu'un vient le voir, on va dire qu'il lui offre cette possibilité de rentrer en contact avec les esprits. Mais ce sont toujours les esprits qui choisissent de venir à lui et de considérer si la question qu'il aurait posée est de leur ressort pour la réparer.
C'est très important de le dire. On en avait déjà parlé avec Céline D'Artagnan, il n'y a pas obligation de résultat, si on peut le dire de cette manière-là.
J'aime bien cette phrase, en effet, il n'y a pas d'obligation de résultat. Et puis, il y a aussi cette question qui me semble toujours importante, que je dis plusieurs fois dans Ciel blanc, ciel noir, où on va poser cette question aux patients. Êtes-vous prêt à abandonner votre souffrance ? Ça, c'est une grande question. Parce que parfois, la souffrance, c'est vraiment un état d'être pour certaines personnes. Et c'est aussi quelque chose à respecter. Tout le monde n'a pas forcément envie, son existence présente, en tous les cas, d'aller vers la lumière. Il y a parfois une part de souffrance à assumer qui est nécessaire, je dirais, dans l'expérimentation.
On a toujours notre libre arbitre, en fait, par rapport à la souffrance ou à la guérison.
Et ça, je pense que la question du libre arbitre, en effet, c'est quelque chose de très important dans le dialogue avec le patient. On n'est pas là pour imposer des choses, pour les vouloir à sa place, et encore moins pour être dans un rôle de sauveur. Pour moi, le chamanisme, c'est avant tout une reliance. C'est vrai qu'on assimile trop souvent le chamanisme à la relation de pouvoir, alors que Dans mon expérience spirituelle, le chamanisme est associé avant tout à la reliance et je dirais à mon rapport au divin. Et à partir de là, il y a une forme de passivité, mais de passivité active et de réceptivité où à ce moment-là, j'incorpore les esprits. Il y a une phrase qui m'est venue en canalisation que j'aime beaucoup, c'est « recevoir en creux ». C'est pour ça que je rapproche parfois le christianisme au chamanisme, ce qui peut choquer certaines personnes. Et notamment, c'est ce qui justifie le fait que je me suis intéressée à une grande mystique chrétienne qui s'appelle Jeanne Guyon et qui était à la tête du mouvement quiétiste au XVIIe siècle, où en fait, le mouvement quiétiste prônait avant tout, l'union au divin. Alors moi, je peux dire l'union avec la source, l'union à Dieu, enfin comme on veut. Les esprits étant pour moi les intermédiaires qui convergent au bout du compte vers la source, mais qui sont là aussi comme des intermédiaires avec différentes qualités et différentes réponses à nous donner sur différents plans subtils, selon ce qu'on va leur proposer comme prière, je dirais. Quand quelqu'un vient à nous, il a une qualité d'énergie, il a une question particulière, et à partir de là, ça va appeler une certaine qualité d'esprit, et une certaine forme d'esprit, qu'on appelle ongod en Mongolie.
Quand tu parles de réceptacle, moi ça me fait penser à l'énergie féminine. Tu reçois en fait la source, tu es réceptacle.
C'est ça. Je reviens à Jeanne Guyon, cette mystique du XVIIe, qui disait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « la volonté de ne pas vouloir ». On insiste beaucoup sur la transe quand on parle du chamanisme, mais en fait, le mot « transe » n'existe pas dans le chamanisme mongol. On parle de boule, on parle de descente, donc d'incorporation. Donc si on considère que la femme reçoit, à partir de là, c'est vrai qu'il faut être comme une espèce de coquille vide, mais coquille vide dans le sens aussi aspiration du terme. C'est-à-dire pour moi, c'est avec le cœur que je suis avant tout une coquille vide et que je reçois, que je canalise, soit par la clairaudience, soit par la vision, le message que les esprits à me transmettre.
Tu as toujours reçu des messages ?
Disons que j'ai eu des intuitions, en effet je voyais des choses, mais le chamanisme a amplifié mes sensations, a amplifié ma vision, m'a apporté de nouvelles présences. Et je peux dire que dans le chamanisme, j'ai trouvé ma forme, en quelque sorte.
Tu as eu un appel par rapport à la Mongolie, comment ça s'est passé ? Comment tu es venue à partir aux confins de la Mongolie avec une amie ?
Alors, je suis partie avec ma compagne, Anne. À partir du moment où j'ai entendu le nom d'Enketuya, pour moi, c'était une sorte d'évidence que quelque part, elle m'attendait et que j'avais réellement quelque chose à faire et à apprendre. Ce qui s'est vérifié dans la mesure où nous sommes allés là-bas 8 années de suite. Ça s'est arrêté juste à la période Covid, on va dire, avec l'espoir, j'espère, bientôt d'y retourner. Mais c'est ce que je disais en début d'interview, c'est cette force de l'appel que tu peux difficilement décrire, c'est de l'ordre de l'indicible, mais tu sais que là, quelque part, quelque chose t'attend et que tu dois y aller et que par n'importe quel moyen, parce que là, au niveau logistique, c'était pas forcément facile de rejoindre tout le nord de la Mongolie, etc., mais on s'en est donné les moyens. Et les choses nous ont été relativement facilitées, même si je dirais on nous a testés de façon successive pour voir si vraiment on avait envie sincèrement d'y aller. Je me souviens très bien de la première fois où on a vu ce tipi fermé. On ne savait pas qui nous attendait derrière. Enfin, on savait qu'Enketuya était là. Bon, le tipi s'est ouvert et j'ai surgi dans le tipi. Et à ce moment-là, il y a eu cette évidence comme une étincelle. Et c'est là qu'Enketuya a dit « Mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ?»
T'attendais. Et comment ça se fait que tu as choisi Enketuya ? Tu as entendu parler d'elle de quelle manière ?
Alors bon, Enketuya est une grande chamane qui est relativement... médiatisée, c'est la chamane de Corinne Sombrin, c'est la chamane de Laetitia Merli. Dire plus par rapport à ça, j'allais dire parce que c'était elle, parce que c'était moi. C'est de l'ordre de la rencontre. C'est difficile d'aller plus loin par rapport à ça. Il y avait pour moi une forme d'évidence que c'était là, où c'était Enketuya et pas quelqu'un d'autre.
C'est comme un appel mystique.
Oui, on peut dire ça. Mais au-delà de la personne... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a cette reliance, c'est-à-dire on dépersonnalise tout au bout d'un moment et on cherche cet alignement pour vraiment être en phase avec la source, je dirais. Et ça va au-delà de l'aspect culturel, même de l'aspect traditionnel, où Enketuya insiste beaucoup sur le fait que le chamanisme, c'est avant tout la voie du cœur, je dirais.
C'est un peu la question que j'allais te poser parce qu'on voit de plus en plus d'Occidentaux se tourner vers le chamanisme. Comment elle peut, enfin si tu peux parler à sa place, comment elle peut l'interpréter ça ?
Ben, je pense que relativement elle fait un certain tri et elle a le discernement nécessaire pour savoir qui vient à elle et pourquoi quelqu'un vient à elle. Elle ne dispense pas son enseignement de la même façon selon les personnes qui viennent à elle. Dans le néo-chamanisme, il y a avant tout une recherche de pouvoir. C'est-à-dire que les gens s'imaginent à partir du moment où ils vont avoir un tambour, ils vont devenir dans une espèce de surpuissance. Et moi, j'aime bien dire d'une façon un peu sarcastique, un tambour, mais pourquoi faire ? Moi, par exemple, dans mes soins, je n'utilise pas le tambour, mais un bâton de soin qui m'a été transmis par Enketuya. D'ailleurs, j'en parle dans Ciel blanc, ciel noir. Et les gens ont un espèce de fétichisme par rapport au tambour, sans savoir forcément, je dirais, comment appeler les esprits et surtout comment les faire repartir, comme dit Enketuya. Et c'est là où il peut y avoir des problèmes, parce que certains esprits peuvent rester accrochés. Ça peut créer des dysfonctionnements parfois assez graves.
Est-ce qu'on peut en parler justement de ça, parce que c'est ce que tu parles dans Ciel blanc, ciel noir. Je l'avais déjà abordé avec Céline D'Artagnan, comme quoi il n'y a pas de bien ni de mal. On a souvent entendu parler en développement personnel du bas astral, du haut astral, dans des termes qui font souvent peur. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait vraiment peur de toucher l'au-delà, parce que j'ai toujours peur de tomber sur du bas astral. Mais là, tu l'expliques dans Ciel blanc, ciel noir, que tout a son utilité et que tout se rejoint. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Notre mental a tendance à catégoriser les choses, et puis aussi notre culture judéo-chrétienne qui nous a appris qu'il y avait d'un côté le bien et d'un côté le mal. Pour poser une certaine représentation, en effet, le ciel blanc, ça serait naturellement les esprits qui sont alliés, qui nous sont acquis naturellement et qui viendront spontanément à nous, parce que leur mission, c'est vraiment la relation d'aide. Et les esprits du ciel noir, ce sont des esprits beaucoup plus rotors et beaucoup plus autonomes, qui tiennent à cette espèce d'avarice, je dirais, entre guillemets, de leur énergie. Et là, il va falloir que le chaman arrive à les convaincre pour que cette énergie puisse être distribuée et qu'elle puisse aussi aider à réparer. Mais comme ce sont souvent des esprits puissants, ils sont capables de, s'ils y consentent, de réparations puissantes. Alors après, c'est tout le talent, je dirais, du chaman, d'avoir avec lui des ongots puissants pour intervenir dans des réparations assez lourdes et assez graves.
Alors tu parles justement des ongods, donc ils peuvent avoir différentes formes, on va dire, dans notre esprit humain. Ça peut être des animaux, tu parles d'un viking, tu parles d'un guerrier aussi, lumineux.
Oui, parce qu'en fait, tous ces ongods ont des qualités. Ont des qualités qui, quelque part, leur donnent forme. Mais tout ça, ça se résonne en termes d'énergie et de conscience et de possibilité d'apporter, comme je dis précédemment, réparation. Alors, parfois, nommément, ils se nomment. Et parfois, ma vision va m'entraîner à leur donner un nom. Mais ce sont toujours eux qui choisissent de venir à nous. Ça, pour moi, c'est très, très important parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil, de ne pas forcer les choses. On ne sait jamais, par exemple, dans le cercle de cérémonie, si on fait un rituel, si en effet, il y aura un résultat. On n'en sait rien. Et ça, c'est important, honnêtement, de le dire à la personne qui va venir à toi. C'est quelque chose qu'elle doit admettre.
Sa prière sera de toute façon entendue, mais peut-être pas dans la forme qu'elle souhaite.
Oui, parfois ça peut prendre une autre forme. Donc c'est là où il faut aussi qu'elle soit dans un lâcher-prise pour entendre quelle est la solution. En tous les cas, la réparation peut conduire à une autre forme d'expérience. Et ça, il faut aussi l'admettre.
Il y a une phrase que j'ai notée dans ton livre, c'est « On ne subit pas fatalement les conséquences de sa relation à l'invisible ». Ça, c'est important de le dire. Ce n'est pas une expérience fatale, forcément. Ça peut être, c'est beau, en fait. La relation invisible, quelle qu'elle soit, c'est beau. Comment je pourrais résumer de façon
Pour moi, qu'est-ce qui nous lie, on va dire, le chaman, les esprits, c'est cette force d'amour. C'est la force de l'amour universel qui fait que l'esprit d'entraide... je dirais, il naît de cette volonté d'amour, pour le coup, de cette volonté de la source. Et à partir de là, si on épouse cette volonté d'amour, c'est comme si on se donnait la main. Il y a une espèce de chaîne qui fait que le chaman, les esprits, sont unis dans cette quête.
Tu ressens une espèce de paix à chaque soin que tu as fait. Ça t'envahit, tu as l'amour qui est là, qui est présent, une paix. Tu aimes encore plus la vie.
Je dirais que chaque soin conduit à une ouverture de cœur. Et là, ça demande une disponibilité de laisser de côté sa personnalité, parce que parfois, on n'est pas forcément, disponible à 100%, mais il faut pourtant l'être à un moment, c'est-à-dire laisser tout ce qu'on a de côté, tout ce qui pourrait quelque part nous charger, et être vraiment dans cette réceptivité pour entendre ce que l'invisible a à nous dire. Et pour pouvoir justement apporter réponse à celui qui l'attend.
Pour toi, le chaman, tu le définis comme un voyageur, un nomade ou un artiste de l'âme. Est-ce que c'est ton côté artiste? Tu es peintre aussi? Bon, tu écris, tu es peintre, tu es musicienne.
Oui.
Tout ça t'a servi, toi, avant, quand tu peignais ou quand tu jouais de la musique? Tu te sentais reliée?
Je dirais que déjà en étant créatrice avec des supports comme la peinture ou la musique, il y a une espèce de nomadisme de l'esprit déjà, où on doit faire confiance aussi à l'inspiration. Donc on n'est pas très loin du chamanisme dans cette forme de réceptivité. J'ai fait des sortes d'exercices d'assouplissement, je dirais, en ayant ce costume de peintre et de musicienne qui m'a permis aussi d'apprendre à recevoir et à faire confiance à l'intuition.
Quand tu dis que tu es revenue pendant 8 ans en Mongolie auprès d'Enke Tuya, c'est un besoin fondamental d'aller encore toujours apprendre auprès d'elle.
Alors, il y a cette phrase, les esprits t'enseigneront. C'est-à-dire qu'elle fait une sorte elle est vraiment dans une économie de parole, Enke Tuya, même si sa présence est très forte. elle est aussi bien forte dans le tipi qu'en cercle de cérémonie. Mais il y avait ce besoin de, là aussi, de retourner à la source, c'est-à-dire de bénéficier aussi des ongodes, des esprits d'Enketuya qui sont avec elle et qui favorisent une sorte d'alignement.
En fait, être avec ces esprits, ça te permet vraiment de concentrer et d'aller aussi chercher tes esprits.
C'est ça, moi-même, on pourrait dire de me centrer, mais aligner, je préfère. Parce que je vois vraiment ça comme un fil qui nous relie à quelque chose de supérieur, je dirais d'infini, même si tout est en tout, même si tout est dans tout. Et Enketuya a une telle joie et je dirais un tel amour qu'elle transmet qu'au bout d'un moment, avoir été une première année, ça nécessitait une deuxième année, une troisième année, enfin, il y a une vraie relation qui s'est établie entre moi et elle. Pour moi, c'est ça avant tout l'initiation, c'est cette reliance, cette faculté aussi de se laisser faire et de se laisser prendre.
Oui, comme on dit le fameux mot lâcher prise,
oui.
Faire confiance en la vie, dans le flux. J'aime bien aussi la façon dont tu vois ton tambour, on en a parlé un petit peu précédemment, mais pour toi c'est un cheval, une monture.
Oui, c'est, pour le chaman, c'est sa monture, chevaucher le tambour. Je le dis dans le premier chapitre. Parce que le tambour va conduire à cet acte spirituel qui fait qu'on va vibratoirement approcher l'autre et pouvoir lui donner une réponse. C'est-à-dire il nous conduit vers l'invisible, le tambour. Il nous conduit vers les ongodes. Ou plutôt, on va à leur rencontre, puisque c'est eux qui viennent à nous. Donc, le tambour doit être bien pris en main. Il doit avoir toute sa puissance, tout son son. Et ça, c'est notre intériorité. Elle permet, dans cette concentration, de le tenir fermement et de faire en sorte qu'il nous emmène loin.
Et c'est important aussi ce que dit Enketuya par rapport à la transe. Elle, ça la fait rire. Nous, notre vision occidentale de la transe, de sortir nos griffes, tu en parles dans ton livre, de crier, c'est pas forcément sa vision à elle. Même si ça existe.
Ben nous, on a une vision très hystérique, parfois, du chamanisme, en pensant que, justement, la réussite du rituel, ça sera le démonstratif. Alors, comme je le dis dans le livre, et comme le dit Enketuya, il peut y avoir des transes tout à fait immobiles. Mais il y a aussi des chamans malhonnêtes qui font le show, parce qu'ils savent qu'en fait, les Occidentaux attendent quelque chose de démonstratif. Il y a certains chamans qui surjouent, justement. Mais moi, j'aime bien dire que, quelque part, l'immobilité, elle est aussi garante de la réceptivité, parce que rien ne se fait sans le calme, sans la sérénité. Et là où on intervient aussi beaucoup dans le tipi, parce que les gens s'imaginent qu'on fait des cérémonies tous les quatre matins, mais en fait, comment ça se passe en Mongolie? C'est-à-dire que toute la journée, il y a des gens qui vont, qui viennent, et à partir de là, on va proposer peut-être une cérémonie dans les jours à venir par rapport à des problèmes ou à ce moment-là un peu épineux, on va faire venir toute la famille. Mais sinon, c'est uniquement du face-à-face, un peu comme on irait voir le psy ou le médecin de famille, comme tu veux. Et à partir de là, ça demande justement une grande concentration, une grande écoute pour chaque personne qui vient te voir.
D'ailleurs, maintenant, dans tes soins, tu ne fais pas forcément de cérémonie au tambour. On est d'accord, c'est du face-à-face. Comment ça se passe, tes soins ?
Donc, j'utilise avant tout le bâton de soin qui m'a été donné par Enketuya, mais je peux le faire aussi sans le bâton de soin. Le plus important pour moi, c'est la manière dont je vais poser mon attention et comment ça va être reçu justement par mes ongodes et par mes esprits et la façon dont elles vont me donner un message pour réparer. Je le dis humblement, mais Enketuya dit il y a des gens comme toi qui n'ont pas besoin du tambour et qui n'ont pas besoin d'outils. Ça, je peux le faire. Je dirais assez spontanément. L'important, c'est d'être vraiment à l'écoute de son intériorité et de tous ses esprits alliés au moment où tu demandes quelque chose et à un moment de rien, de ne plus rien demander pour voir justement ce qui va venir face à la question qui t'est posée.
C'est comme une grande méditation. Tu rentres dans un état de conscience modifié, c'est ça ?
C'est ça, comme une mise en apnée où tu vas quelque part. Arriver à un espèce de point de rencontre où tu sais que tu vas trouver quelqu'un qui va te répondre. Alors, après, ça peut être de l'ordre de la clairaudience, et puis ça peut être aussi des visions, ça peut prendre différentes formes.
Comment ça se fait que tu as eu envie d'écrire ce livre ?
Ah, pour moi, c'était déjà important de restituer toutes ces expériences que j'ai vécues pendant 8 années et d'être au plus près, justement, au niveau des mots. C'est pour ça que le langage poétique, pour moi, était le plus approprié. Pour que les gens aient accès, justement, de façon émotionnelle et sensitive à mes expériences chamaniques. Parce que je trouve que jusqu'à maintenant, enfin, bon, c'est pas, il y a des ouvrages qui sont très intéressants, c'est pas ça que je veux dire, mais l'approche conceptuelle, ça ne transmet pas la part d'expérience vivante et sensible. Pour moi, ça me semblait important que cet ouvrage, Ciel blanc, ciel noir, restitue justement cette part sensible, sensitive, je dirais. J'aimerais bien que les gens, quand ils lisent Ciel blanc, ciel noir, participent à l'expérience, la ressentent dans leur corps.
Oui, on est bercé par tes mots. Et c'est vrai qu'on est emporté. Quand tu parles du viking, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas effectivement quelque chose de très théorique. Au contraire, on est emporté dans un voyage avec toi.
En fait, ce n'est pas du domaine de l'explication. Là, j'ai voulu, dans cette écriture, lâcher le mental. Et c'est vrai que le langage poétique s'y prête, parce que pour moi, ça permet, je dirais, des mots à tiroir, où on peut rentrer dans les mots et au-delà du sens.
Tu as d'autres livres à venir ?
Alors là, il y a un ouvrage qui s'appelle le Journal de l'Invisible, qui est un ouvrage que j'ai canalisé. Et qui parle de notre place, on va dire, dans l'univers et de l'importance de notre incarnation. Ce sont des messages qui m'ont été donnés. Et aussi un oracle, l'oracle de la chamane, là qui est la partie pratique de Ciel blanc, ciel noir, où les cartes sont plus que des illustrations, sont des émanations que les gens pourront recevoir et aussi eux-mêmes utiliser. De façon pratique et usuelle, pas comme un bel objet, enfin au-delà du bel objet. Parce que souvent, je me suis rendu compte qu'on va acheter un tarot divinatoire et qu'on va, au bout d'un moment, le tirer une fois, deux fois, et puis après le laisser de côté. Là, j'ai vraiment envie que cet oracle devienne une sorte d'ami, que les gens, justement, aient accès à l'invisible par l'intermédiaire de ce qui est venu à moi, justement aussi dans cette canalisation, puisque c'est un tarot divinatoire que j'ai canalisé.
Comment tu vois le monde qui se met en place ?
Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais pour moi, il y a une espèce de friction entre justement l'ancien et le nouveau monde. Et si ces expériences sont aussi difficiles, c'est parce que l'ancien monde, il a beaucoup de mal à lâcher. Et à partir de là, il faut assumer cette part d'expérience, même si elle est difficile, mais il faut savoir la traverser, comme une sorte de nettoyage, je dirais. Et après, bon, c'est vrai que cette intensité, elle est très troublante, d'autant plus avec ce virus, ce Covid, etc. Mais pour moi, c'est un passage. Donc c'est quelque chose qui, à un moment, donnera place totalement à autre chose et donnera un autre sens à notre incarnation terrestre, avec de nouveaux outils qui surgiront.
Et tu penses que les engodes, même si on n'est pas chaman, sont toujours là pour nous, si on les appelle ? Est-ce qu'on peut naïvement les appeler ?
Oui, on peut naïvement les appeler. Ils sont toujours là et eux participent justement à ce travail du nouveau monde, parce que là, ils ont un très très gros travail pour cet avènement. Mais moi, ce que je préconise, c'est toujours la sincérité du cœur. Si on est sincère et, je dirais, pas intéressé, on aura des vraies réponses. On ne nous laisse jamais tomber si on est vraiment dans cet abandon et cette sincérité du cœur.
Ne pas trop avoir d'envie de réponse, rester vide, sans attente.
Ce que n'aiment pas les esprits, je pense, c'est la volonté de puissance. Il y a un vrai dialogue qui peut s'instaurer avec l'invisible à partir du moment où on est vrai dans son cœur. Et que quelque part, on est dans cette participation au mouvement universel. Et qu'on sait que nous, on est là, eux, ils sont là, et qu'au bout du compte, il y a cette source qui nous a créés et qui veut le meilleur pour nous. Si justement, on sait être aligné et la recevoir dans son énergie d'amour.
Merci.
Mais merci, Corinne.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.